Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition réalisée en partenariat avec Questions Internationales qui consacre son dernier numéro à ce que la revue intitule « La Nouvelle Afrique ». Nouvelle Afrique comme conséquence des mutations socio-économiques très profondes qui ont cours depuis les années 90, faites de dynamiques fortes, notamment démographiques et politiques, une longue phase de croissance économique, une urbanisation qui s'intensifie, un territoire en émergence ouvert à la mondialisation, ou plus exactement des territoires, tant les situations sont diverses, voire contrastées, d'où sans doute cette confrontation entre afro-optimistes et afro-pessimistes. Nos invités, Roland Pourtier, géographe, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, bonjour.
Bonjour.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politiste et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, paru aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris. Bonjour.
Bonjour.
Parler de l'Afrique dans le monde, la place de l'Afrique dans le monde conduit à parler pêle-mêle de démographie, d'urbanisation, de matières premières, de sécurité, de gouvernance. Depuis les années 90, les représentations de l'Afrique subsaharienne se sont radicalement modifiées au point que le continent de la misère a fait place à celui des opportunités, de l'émergence, de la nouvelle frontière, de la globalisation. Roland Marchal, est-ce que le bouleversement des images correspond d'après vous à la réalité ?
Ah oui, disons d'une certaine façon, même si la temporalité n'est peut-être pas la même. C'est-à-dire que le bouleversement vient profondément des liens renouvelés avec la Chine et de l'importance que la Chine joue aujourd'hui sur le continent, qui a évidemment des liens économiques qui ont été prolongés par les pays émergents. Mais d'une certaine façon, on voit ce changement d'image à partir des années 2000, alors que les relations entre Chine et Afrique, par exemple, étaient déjà en nette croissance dans les années 90, disons à partir de 92. Donc, si vous voulez, il y a un décalage dans les opinions publiques, il y a un décalage de temps, mais il y a une réalité qui était là. De plus, pour, disons, les gens qui suivaient de plus près, comme les universitaires que nous sommes, l'Afrique a toujours été très différente, hein. Je crois que l'idée que c'est un continent qu'on peut résumer, comme vous l'avez fait, bon, qui était la version acceptée en général par les médias et par les hommes politiques, c'est quelque chose qui a toujours été très contesté par les universitaires qui travaillaient, qui voyaient bien que le Burkina Faso n'était pas la Côte d'Ivoire et que il y avait d'énormes différences entre Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, dont on parle aujourd'hui très peu et qui reste, disons, jusqu'à aujourd'hui très vrai, même si il y a des facteurs unificateurs, dont par exemple cet intérêt de la Chine.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos en studio et Roland Pourtier, vous partagez, Marc-Antoine Pérouse de Monclos?
Oui, bien sûr, sur la nécessité de voir l'Afrique comme pluriel, avec des plus que des nuances entre, je sais pas, le Malawi et l'Afrique du Sud ou le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les années 80-90, je pense qu'il y avait effectivement un excès de pessimisme sur l'Afrique. On parlait d'afro-pessimisme à l'époque. Et aujourd'hui, il y a peut-être aussi un excès d'optimisme. C'est-à-dire que l'Afrique est quand même toujours frappée, il y a toujours des handicaps structurels. Il y a peut-être un espoir qui est nourri par le fait que c'est perçu comme le dernier grand réservoir de croissance de la planète. Et en même temps, c'est vrai, il y a eu aussi des améliorations extrêmement sensibles depuis les années 80-90. Vous avez moins de coups d'État, moins de dictatures militaires, moins de guerres. Ça, il faut bien le prendre en compte. Donc c'est quand même un continent qui n'est pas sorti d'affaires, mais qui néanmoins va mieux qu'il y a quelques décennies. Mais encore une fois, attention, si vous prenez certaines zones d'Afrique comme le sud de la Somalie ou le Congo Kinshasa ou le Darfour, difficile de parler d'une amélioration. Donc là aussi, soyons nuancés dans la compréhension de l'Afrique, en sachant que d'ailleurs, il y a toujours un angle un peu mort dans cette histoire, c'est l'Afrique du Nord. On parle du continent, mais souvent quand on parle de l'Afrique en France, on pense à l'Afrique subsaharienne. Et on considère que l'Afrique du Nord, elle est complètement à part, elle est déjà sur la voie du développement. En réalité, voilà, l'Afrique, c'est un continent, y compris dans son versant nord.
Roland Pourtier.
Je ne peux qu'appuyer ce qui vient d'être dit et rappeler que le numéro de questions internationales qui s'intitule « La Nouvelle Afrique » ne traite que de l'Afrique subsaharienne. Mmh. Alors il y a ce glissement où on a tendance aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, de ne parler que de l'Afrique au sud du Sahara, en rattachant les questions de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, avec ce fameux ensemble que les Américains ont développé sur Middle East, North Africa. Et sinon, bien sûr, l'Afrique est très diverse. Elle est très diverse, mais de la même façon qu'il y avait une caricature à l'époque où on était afro-pessimiste, il y a aussi aujourd'hui un risque de simplification dans cette vision très optimiste de l'Afrique. Et s'il y a une grande diversité dans cette Afrique, il y a aussi un certain nombre de traits communs qu'on devrait analyser beaucoup plus finement, et notamment la démographie qui touche tous les pays d'Afrique subsaharienne et qui est un des défis majeurs de cette partie de la planète.
Alors, j'allais y venir et c'est très bien. Merci Roland Pourtier, vous avez fait pour moi la transition. Parmi les problèmes, donc la démographie, c'est un sujet tabou. Alors que la croissance de la population mondiale a été divisée par deux depuis les années 1960 et s'établit désormais à 1% par an, la population de l'Afrique subsaharienne continue de croître de 2,7 par an du fait d'une fécondité qui reste élevée. Elle a été multipliée, la population de l'Afrique subsaharienne, par 5,7 entre 1950 et 2017, contre 3,2 pour l'ensemble de l'Asie et 3,8 pour l'Amérique latine. Elle a dépassé la population dans son ensemble en Afrique, le milliard d'habitants en 2017. Pourquoi la démographie se voit accorder une place le plus souvent marginale dans les analyses consacrées à l'émergence? Quelles en sont les raisons, d'après vous, Roland Marshall?
Je crois d'abord, c'est un domaine qui est beaucoup plus spécialisé dans les sciences sociales. Donc, il y a cette tentative, disons, de considérer que ça joue un rôle relativement marginal, et ou alors c'est abordé de façon un peu spectaculaire par le rôle de la jeunesse, sa marginalisation, sa culture, son entrée dans la violence, son basculement dans la violence. Vous voyez à quelles images d'enfants soldats je fais référence. Et finalement, on se pose assez peu les problèmes. Et je le vois, par exemple, justement sur cette question des enfants soldats. Si vous voulez, on a une législation internationale qui définit un enfant jusqu'à 18 ans. Bon. Je me souviens, il y a plus d'une dizaine d'années, je travaillais comme consultant pour la coalition internationale sur les enfants soldats. Et on m'avait demandé de faire un travail sur l'Est du Tchad. Bon, à l'Est du Tchad, vous aviez des adolescents, nous on les appelle des adolescents, mais en fait des jeunes hommes de 15 ans qui étaient déjà pères de famille. Et donc leur engagement dans la violence pour défendre leurs biens, leur famille, était quelque chose de tout à fait naturel. Et les gens de la coalition comprenaient bien qu'il y avait quand même une disparité très très forte entre la perception légale et internationale de l'enfance et la réalité qui reste quand même très prégnante dans une grande partie du continent où il n'y a pas d'adolescence. L'adolescence n'existe pas. Vous avez des enfants et puis ensuite vous avez des pères de famille. Et donc ça crée... Si vous voulez, ça crée sans doute un point aveugle, y compris pour des chercheurs comme moi, et qui fait qu'on a tendance à mésestimer ça. D'un autre côté, je trouve que la façon dont la question du développement, et donc notamment la question du décollement économique avec les comparaisons qui sont souvent extrêmement littéralistes avec l'Asie, et donc avec des diminutions très fortes des taux de fécondité, ça suscite aussi un malaise chez les chercheurs parce que on voit bien que un certain nombre de préconditions ne sont pas remplies et on voit aussi un autre aspect qui n'est pas traité, hélas, dans ce numéro de questions internationales, qui est le fait que lorsqu'on traite de politique de natalité, on évite de parler du droit des femmes et des droits économiques et sociaux, droit à l'éducation par exemple, qui ne relèvent pas de politique sur la natalité, mais qui ont un impact extrêmement fort sur les taux de fertilité et de fécondation et sur la natalité. Donc j'ai utilisé de façon synonyme des termes qui en fait ont des sens très différents, le géographe m'en excusera, mais je crois que c'est aussi une composante extrêmement forte. Si les gens veulent réduire les taux de natalité, d'abord il faut que les populations soient impliquées, elles ne le sont pas du tout, et ensuite il faut aussi penser aux droits des femmes. Et ça, je dois dire que on a un peu tendance à l'oublier, à la fois du côté des États africains, mais aussi dans les projets d'aide de la communauté internationale, quelquefois.
Alors, droit des femmes et droit à l'éducation, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, avec éducation vient aussi prise de conscience d'un certain nombre de choses. J'en reviens toujours à la question démographique.
Oui, c'est-à-dire que la scolarisation des filles est souvent vue comme la clé, la réponse à la pression démographique parce qu'elle retarderait l'âge au mariage. Maintenant, je voudrais peut-être pondérer certains points. D'abord, je suis pas sûr que la question de la démographie soit si marginale quand on parle de l'Afrique. Au contraire, ça fait souvent partie des représentations stéréotypées, sous-entendu, les Africains font trop d'enfants. Mmh. Donc au contraire, cette question est bien là. Et il y a aujourd'hui un énorme débat entre ceux que j'appellerais les néo-malthusiens qui disent que finalement, il y a de plus en plus de population en Afrique, il y a moins de ressources, et donc ça devrait conduire à des tensions sociales qui vont dégénérer en guerre, alors même que, je vous le disais, il y a quand même moins de guerres en Afrique, relativement à la période notamment des années 70, 80 ou même 90. Et puis face à ça, vous avez des économistes qui au contraire sont plus positifs. Et ça revient un petit peu sur le débat qu'on avait tout à l'heure sur afro-pessimisme ou optimisme. Et qui eux mettent plutôt en avant la notion de dividende démographique en disant que justement une pyramide des âges où il y a beaucoup de jeunes et peu d'anciens, peu de personnes âgées, sur le plan économique, ça permet que justement les actifs n'aient pas à payer les retraites. Donc un modèle économique complètement différent de celui du Japon sur lequel on pourrait rebondir si tant est qu'il y ait d'autres facteurs de croissance économique, et c'est plutôt là que se jouerait, selon eux, un avenir plus positif de l'Afrique.
Roland Pourtier.
Je voudrais revenir aux chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. Il y a actuellement 1 milliard d'habitants en Afrique subsaharienne, il y en aura grosso modo 2 milliards en 2050. Et la question, c'est de savoir comment on va pouvoir gérer cette croissance. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un tabou concernant la démographie, de moins en moins. Parce que les autorités africaines, les grandes réunions internationales africaines, comme l'Union africaine, commencent à parler sérieusement de démographie. Parce qu'on se rend compte de l'impasse vers laquelle on va s'il n'y a pas cette révolution démographique qui paraît nécessaire. Alors, tabou parce que pendant longtemps, les responsables, les élites africaines n'ont pas voulu qu'on parle de la démographie. Peut-être parce qu'inconsciemment, ils pensent que l'explosion démographique actuelle de l'Afrique est un rattrapage historique. Après les saignées démographiques de la traite esclavagiste et du début de la colonisation, l'Afrique serait en train de rattraper son retard, et donc c'est très bien. Et puis il y a une autre idée qui était plus ou moins exprimée, c'est que l'Afrique est peu peuplée globalement, il y a de la place. Donc s'il y a de la place, il ne doit pas y avoir de problème pour accueillir 1 milliard supplémentaire. Sauf que dans certaines régions, les tensions sont déjà extrêmement fortes, comme dans la région des Grands Lacs ou au Nigeria, et qu'on ne peut pas se contenter de ce raisonnement. Mais ce qu'on voit à l'échelle des équilibres démographiques mondiaux, c'est que l'Afrique, qui représentait 7% de la population mondiale en 1950, en représente aujourd'hui 14%, et en 2050, ce sera 22%. Donc il y a ce grand rééquilibrage, si on veut se placer du point de vue de Sirius, ça c'est très important. Mais la question, c'est de savoir comment on peut gérer cet accroissement énorme de population avec des taux de fécondité exceptionnels dans l'histoire de l'humanité. On est quand même entre 4 et 6 enfants par femme, plus de 7 dans le cas du Niger, et ça sur une période de 50 ans. Et on commence à peine à voir la diminution de ce taux de fécondité. C'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. Ça, je crois qu'il faut vraiment le mettre en exergue. Et quand on parle du dividende démographique, certainement, cette notion de dividende démographique est essentielle. Mais cette dividende démographique ne peut fonctionner, toutes les études le montrent, que s'il y a en même temps que la croissance économique, une baisse très significative et très rapide de la fécondité. Tous les pays qui ont accédé à l'émergence, comme on dit, tous ces pays, sans aucune exception, ont réalisé cette transition démographique avec une chute spectaculaire de la fécondité qui partait de 6, 7 il y a 60, 70 ans à 2, 3 aujourd'hui. Et l'Afrique n'a pas suivi ce mouvement. Elle commence à l'amorcer. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Ce mouvement est amorcé dans les villes notamment et dans certains pays plus progressistes peut-être que d'autres sur ce plan-là. Le mouvement commence, mais il va y avoir quand même une période de très forte tension qui va dominer toute la vie politique de l'Afrique. Et s'il y a cette forte tension, c'est parce que ce que les démographes appellent la révolution contraceptive commence à peine en Afrique. L'usage du contraceptif moderne, c'est le plus faible du monde entier, avec des taux pour l'Afrique en moyenne de 25% d'utilisation de préservatifs modernes chez les femmes, contre une moyenne mondiale de 60%. Donc ces chiffres-là sont essentiels à avoir en mémoire.
En tout cas, et on l'a compris, c'est un élément important. Je salue l'arrivée de Roland Marchal, qui a eu du mal à venir jusque chez nous. Merci d'être là, Roland Marchal. Alors, je rebondis peut-être avec vous. On l'a compris, en tout cas, cette question démographique est un élément important pour l'émergence de l'Afrique. Y parvenir nécessite une volonté politique forte, la définition d'objectifs ambitieux et de là, des déclarations d'intention, la mise en œuvre effective de programmes. Où en est-on par rapport à cela ?
Bon, j'ai un point de vue qui n'est évidemment pas aussi informé que celui d'un géographe, mais il me semble que, bon, il faut bien se rendre compte que c'est un contrôle des corps. C'est une intrusion dans la vie privée, dans l'espace privé. Et donc ça, peut-être pour nous, ça pose moins de questions que ça ne pose dans beaucoup d'autres sociétés. Le contrôle des corps, ça renvoie en Afrique certainement à une histoire coloniale. Ça renvoie à beaucoup d'autres choses, mais ça renvoie aussi à ça. Le fait que les gouvernants hésitent à se saisir de ce type de problème, c'est aussi parce que ils connaissent, c'est pas simplement par inconscience, je crois pas du tout. Je crois que c'est aussi parce qu'ils connaissent les très fortes réticences sociales qu'il y a là-dessus. Quand vous êtes dans des pays qui sont pauvres, ou qui sont en guerre, l'idée de faire des enfants et d'en faire plus, ça renvoie à la fois à des économies de survie, ça renvoie aussi à des rapports de force entre communautés, ça renvoie aussi à une certaine économie politique du foyer. Comment ça fonctionne, comment on peut accumuler, survivre et peut-être aussi à la fin avoir de l'argent pour payer l'école aux enfants. Donc ce sont, si vous voulez, comme toujours dans la démographie, pour des questions démographiques, ça renvoie à une multitude de questions qui sont pas simplement, disons, strictement économiques, mais qui sont aussi sociales, qui sont aussi culturelles dans le vrai sens du terme. Et de ce point de vue-là, bon, il faut un travail de tout le monde et des États et des classes politiques. Et des élites politiques là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a peu de pays d'Afrique qui sont partants pour ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des messages de la communauté internationale qui sont, disons, mélangés. M'excuse de ce détour peut-être à la fois un peu rapide et puis un peu facile, mais bon, quand vous avez Trump à la Maison-Blanche qui décide de couper le financement de tous les programmes où, justement, il y a une idée de contrôle ou de maîtrise en fait des taux de fécondité, bon, ça a un impact extrêmement fort sur le contenu des programmes d'aide dans des pays très pauvres. Je pense au Niger, des pays sahéliens où les taux de natalité sont particulièrement élevés, et évidemment ça a des effets sociaux importants parce que ça montre à la fois que on n'a pas les moyens et d'un autre côté aussi ça montre que finalement c'est pas ça la solution. Et donc, ça trouble beaucoup les opinions publiques.
Alors, Roland Pourtier.
Oui, je voudrais rebondir sur le culturel. Quand j'étais étudiant, j'apprenais qu'en Afrique du Nord musulmane, il était inconcevable qu'on puisse arriver à mettre en place une politique de contrôle des naissances. La Tunisie avait à l'époque une fécondité de l'ordre de 6 à 7 enfants par femme. Aujourd'hui, elle a une fécondité de 2 enfants par femme. Donc, toutes ces prédictions sur les blocages culturels, etc., se sont révélées vaines. Il y a une histoire...
Non, mais la culture peut évoluer, mais il faut la faire évoluer.
Elle évoluera de toute façon. Et de ce point de vue-là, je suis très optimiste.
Plusieurs décennies, on est d'accord.
Mais c'est très lent. Voilà, c'est très lent. Mais ça peut aller aussi rapidement. On le verra. Et il n'y a aucune raison pour que l'Afrique subsaharienne ne suive pas le mouvement qui a été celui d'autres pays dont on disait qu'il ne pourrait pas bouger.
Marc-Antoine Perrouze-Monclos, oui. Vous souhaitez rajouter quelque chose de façon
très
un peu
rapide.
Courte pour terminer cette première partie
d'émission. On parlait tout à l'heure de la nécessité de voir comment l'Afrique est plurielle et les comportements démographiques, on vient d'en parler, sont complètement différents en Afrique du Nord ou même en Afrique australe. En fait, quand on parle des taux de fécondité de 7 enfants par femme, c'est de l'Afrique sahélienne dont on parle. Et puis des gros poids lourds démographiques comme le Nigeria, qui est appelé à devenir le troisième pays le plus peuplé du monde d'ici 2050. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette Afrique sahélienne, les femmes ne font pas plus d'enfants. Ce qui a été vraiment l'élément qui a changé les lignes, qui a fait bouger les lignes, c'est la baisse du taux de mortalité infantile. C'est ça. Donc c'est pas les comportements qui ont changé, c'est les progrès de la médecine. Alors ça, je crois que c'est quand même important de le rappeler, hein. C'est une variable absolument essentielle.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Roland Pourtier, Marc-Antoine Pérouse de Monclos et Roland Marchal dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Nouvelle-Afrique, titre du dernier numéro de la revue Questions internationales. Nous retrouvons nos invités. Roland Pourtier, géographe, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS à Sciences Po Paris. Et Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politiste et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, Paris aux éditions La Découverte. Nous avons beaucoup parlé de démographie dans la première partie de l'émission. On va aborder les questions économiques et de sécurité dans cette deuxième partie. Pour dire que l'Afrique subsaharienne ne représente environ que 2% du PIB mondial, du commerce international ou des stocks d'IDE pour 13,5% de la population mondiale, et seules 17 de ces firmes figurent dans le classement Forbes des 2000 premières entreprises de la planète. Dans ce numéro de questions internationales, Alain Dubresson l'évoque. Faire reculer le mal développement exigerait au moins 7% de croissance annuelle et une rupture avec le modèle rentier dominant. Roland Pourtier, un commentaire ?
Ah ben je crois qu'il a tout à fait raison sur ce plan-là. Une des caractéristiques essentielles des économies africaines, c'est qu'elles sont restées dans la continuité de l'économie coloniale. Mmh. C'est-à-dire que l'Afrique reste aujourd'hui un fournisseur de matières premières, exporté vers les pays du Nord, vers la Chine de plus en plus, et la diversification de son économie se fait difficilement. Donc on reste dans ce modèle rentier. Alors ce modèle rentier, il n'est pas très intéressant sur le plan du développement. D'abord, il y a une dépendance vis-à-vis des cours des matières premières, et l'Afrique ne maîtrise absolument pas l'établissement de ses cours. Donc ça, c'est vraiment un gros handicap. Et puis d'autre part, cette économie rentière ne crée pas énormément d'emplois. Et ce qui se passe aussi lorsqu'on envisage l'urbanisation, qui est un grand facteur de transformation et qui intègre l'Afrique dans la mondialisation, ça c'est évident, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une urbanisation sans industrialisation, à l'inverse de tout ce qui s'est passé dans le monde, et notamment en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Donc là, on a quelque chose qui est une spécificité africaine, et il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de formation des hommes pour qu'on sorte de ce schéma de l'économie rentière.
Roland Marchal.
Mais il ne s'agit pas de rêver, mais peut-être pour essayer de donner une dynamique d'espoir quand même. Vous regardez les exportations chinoises sur le continent africain. Je crois que l'image qu'on en a, c'est fondamentalement des biens de consommation, basiques plutôt que sophistiqués. En fait, quand on regarde un peu plus près, on se rend compte qu'il y a entre, alors ça fluctue évidemment suivant les pays, mais on a entre 10 et 20% de biens de production qui sont exportés de Chine vers le continent africain. Donc vous avez aujourd'hui une dynamique qui est, je parle de la Chine, mais on pourrait retrouver ça avec un certain nombre d'autres pays émergents, où finalement on se rend compte qu'on a deux mouvements qui quand même laissent espérer quelque chose. On a d'une part, et ça il faut le rappeler, la construction d'infrastructures importantes. Penser qu'on puisse avoir une industrialisation sans infrastructures, c'est effectivement impossible. Et là, il se passe quelque chose de ce point de vue-là, et c'est quelque chose de tout à fait significatif. Et la deuxième chose, c'est on voit des investissements productifs. Alors, qui tiennent à plusieurs facteurs. D'abord, à une évidence, c'est que la Chine devient chère. La Chine est un pays qui connaît des luttes sociales extrêmement importantes. Les salaires se sont accrus de façon tout à fait importante également. Et donc, il y a une capacité de délocalisation, et on le voit en Asie, vers Bangladesh, Vietnam. Mais également, on voit qu'il y a des tentatives vers des pays africains. Pays africains, je pense notamment Nigeria et Afrique du Sud, et peut-être Kenya également, et Éthiopie. Donc d'un côté, vous avez cette dynamique-là, et de l'autre côté, vous avez le fait que il y a quand même une prise de conscience. Les élites africaines se rendent aussi compte que ce système-là les condamne finalement à une portion congrue des ressources mondiales, à une dépendance très forte des uns et des autres. Et si vous voulez, on n'est plus dans une période où les 54 pays du continent sont, ou les 54 régimes, sont simplement focalisés sur leur propre survie politique. sur beaucoup de pays, on en parle très peu parce que justement ce sont les pays qui vont mieux, il y a une certaine stabilité et donc il y a aussi la volonté d'aller de l'avant. Je ne fais pas preuve d'angélisme, je ne vous dis pas que les difficultés que mentionnait Roland Pourtier ne sont pas là, elles sont évidemment là, mais en même temps on sent qu'il y a, et on le voit dans la volonté de promouvoir un certain nombre d'entrepreneurs comme... Ou Ibrahim ou Dangote pour le Nigeria, on voit qu'il y a aussi du côté, même je pense à d'autres investisseurs marocains, il y a une volonté aussi, et pas seulement en Afrique francophone, de promouvoir quelque chose de différent. Je suis tout à fait personnellement convaincu que ça va pas se voir dans les 5 prochaines années, ni dans les 10 prochaines, mais je pense qu'au tournant des années 2050, on peut espérer raisonnablement voir des transformations qui n'affecteront pas tous les pays d'Afrique, ça c'est clair. Je vois mal la RCA se transformer en pays avec une industrialisation, mais qui certainement dans d'autres, et notamment celles qui ont accès à la mer, voilà, se développer ou développer des enclaves industrielles. C'est d'une part la politique de la Chine et des émergents, et c'est aussi une demande d'un certain nombre de régimes politiques aujourd'hui en Afrique.
Alors pour terminer avec cet aspect économique, Roland Pourtier, l'Afrique, usine du monde
Non, l'Afrique ne deviendra pas l'usine du monde. En revanche, il y a un élément tout à fait fondamental de transformation d'Afrique, et dans le cadre de la mondialisation, c'est la révolution numérique. Plus d'un Africain sur deux a un téléphone portable. Et Internet se développe de plus en plus. Et moi, je pense que là est la source des transformations les plus profondes des comportements individuels et collectifs. Et que on a du mal à imaginer quelles seront les conséquences. Mais déjà, peut-être que le smartphone sera le meilleur des préservatifs. Et puis,
Quoi en disant cela?
Parce que quand on est branché sur le monde entier, à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit le téléphone portable, etc., on reçoit, on perçoit des messages qui, de manière consciente ou inconsciente, transforment vos comportements. Donc cette analyse du téléphone portable, notamment, doit être faite pour imaginer ce que vont être les transformations de l'Afrique. Elles vont se faire, et le numérique va jouer un rôle tout à fait essentiel en la matière. Et peut-être même que les pays enclavés qui souffrent aujourd'hui de leur enclavement seront un peu soulagés de ce handicap, parce qu'il y a plus d'espace, d'une certaine façon, avec ces communications instantanées, ce branchement sur le monde. Il y a là un facteur de bouleversement qu'il faudra vraiment observer dans les années à venir.
Alors, autre élément qui est probablement source d'entrave au développement, ce sont les questions de sécurité. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, la liste des attentats terroristes perpétrés par des groupes djihadistes en Afrique subsaharienne ne cesse de s'allonger. Aujourd'hui, plusieurs interventions militaires et internationales sont en cours pour contrer la menace des Chebabs en Somalie, de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et de la nébuleuse d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali. La France est en première ligne, en particulier au Sahel, l'opération Serval, puis Barkhane. L'armée française continue de patrouiller les pays francophones et sahéliens du G5, avec lesquels elle a signé des accords de défense, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Comment voyez-vous l'évolution du terrorisme? Est-ce qu'il y a arc de crise des pays arabes sur la mer Rouge jusqu'au Sahara occidental, sur la façade atlantique du continent, comme cela est souvent évoqué? Ça fait sourire Roland Marchal.
Bah oui, parce que je déconstruis beaucoup cette notion d'arc de crise où tous les conflits seraient interconnectés. Ça renvoie à l'idée d'une espèce de central common djihadiste imaginaire qui serait censément dans le sud de la Libye, qui appuierait sur des boutons et qui enverrait les Chebabs attaquer l'Ouganda ou Boko Haram, le Tchad, etc. Ce qui me pose souci dans cette analyse, c'est aussi la mise en récit de l'insécurité en Afrique et même au-delà du Sahel en termes de terrorisme. Parce que je suis désolé, si je regarde la zone sahélienne où se profile ces groupes qualifiés de djihadistes, si je compare avec la situation des années 70, quand se conjuguaient des guerres civiles extrêmement meurtrières au Soudan, au Tchad, en Éthiopie, du temps de la dictature Mengistu, l'Érythrée, etc., avec en plus une sécheresse absolument dévastatrice à la fois pour le cheptel et pour les hommes, on comptait les victimes en centaines de milliers, je suis désolé, le Sahel va mieux. Sur le plan sécuritaire, l'utilisation à tort et à travers de la menace terroriste, qui renvoie à l'idée d'une menace terroriste globale, et puis voilà, moi j'habite dans le 11e arrondissement, donc on va imaginer que demain Boko Haram va monter des attentats sur le Bataclan. Enfin, arrêtons 5 minutes.
Donc
cet gonflement de la dimension globale de cette menace, et l'idée que cette menace serait tout à fait inédite, et que l'Afrique n'aurait jamais été aussi mal en point, notamment au Sahel. Il faut se mettre d'accord sur les indicateurs. En termes de surmortalité,
mortalité liée à ces conflits armés, on n'est pas du tout dans la situation des guerres civiles qu'a connu le Tchad ou l'Éthiopie ou le Soudan autrefois. Donc il y a une mise en récit qui tend à présenter l'Afrique, cette Afrique sahélienne essentiellement, sous un jour extrêmement sombre. Quitte d'ailleurs en plus à occulter d'autres facteurs d'insécurité, que soient les conflits agro-pastoraux, que ce soit la délinquance ou la criminalité très dure qu'il y a dans les townships d'Afrique du Sud, qu'il y a avec les moustiques dans les banlieues d'Abidjan. Ça, c'est une criminalité au quotidien qui perdure tous les jours et qui est en fait une menace beaucoup plus importante pour les Africains.
Roland Marchal.
Oui, si on regarde le nombre de victimes aujourd'hui sur le continent africain, je crois que la RDC est le pays le plus dangereux du monde. Qui parle de la RDC aujourd'hui ? On en parle pour les élections. On vit très bien avec la RDC. On fait des affaires avec. Donc il faut raison garder. Si vous voulez, d'un côté, je crois que il y a effectivement peut-être à cause du propre développement politique ou idéologique dans nos sociétés occidentales une certaine sur-représentation et sur-interprétation de ce qui se passe sur le continent africain. C'est plus ou moins vrai. Il y a toujours des modes. Mais là, puisque ça touche l'islam, il y a une certaine hystérie occidentale. Et si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une très forte incapacité à déconstruire. Donc, puisqu'on ne sait pas déconstruire, on fait des arcs de crise, on constitue des menaces globales et des choses comme ça. Et puis, il y a aussi une certaine incapacité à tirer les leçons. Si vous voulez, moi, je suis très surpris, jour après jour, de voir qu'au Sahel, c'est-à-dire le Sahel francophone, bizarrement, les géographes devraient hurler devant l'usage, du terme, parce que moi, je suis désolé, l'Érythrée fait partie du Sahel, la Somalie aussi, mais visiblement, cette connaissance-là n'a pas encore atteint les rives de notre classe politique. Au Sahel, on fait comme si l'armée française n'avait pas combattu pendant des années en Afghanistan. Enfin, on recommence une histoire qu'on a déjà vécue ailleurs sans en tirer réellement les leçons. On a fait des erreurs sur l'incapacité de penser l'ambivalence d'une intervention internationale.
C'est ça, une remise en question totale de l'option militaire, c'est ça qu'il faut entendre.
Oui, mais pas seulement ça, on a les intérêts des pays voisins dans une crise. On le sait. Pourquoi est-ce que quand on parle du Sahel, on a eu un président français qui a envoyé des troupes là-bas, tout le monde a applaudi. Moi, je suis
Quand François Hollande disait que les djihadistes au nord du Mali massacraient des femmes et des enfants. Il n'y a eu aucun journaliste pour contester ce genre d'assertion.
Moi, je trouve qu'on est quand même dans un registre, dans le débat public, bien avant Trump, où les faits ne sont pas regardés pour ce qu'ils sont. On construit des monstres sans se poser la question de qu'est-ce que c'est réellement, qu'est-ce que ça produit, et à partir de ce moment-là, c'est évident qu'on se retrouve dans les impasses, parce que penser que le G5 Sahel est la solution à la crise, il faut avoir un degré d'optimisme qui est tout à fait stupéfiant. Mais donc d'un côté, vous avez une absence de réflexion sur qu'est-ce que nous avons fait face à des conflits de ce type-là, et puis d'un autre côté, on a aussi cette idée, et moi je trouve ça tout à fait tragique, et je pense que c'est là, pour le coup, on est bien français, il y a une espèce de focalisation sur l'Afrique de l'Ouest, sahélienne, mais sur l'Afrique de l'Ouest en fait, et on oublie tout le reste. Or tout le reste, c'est quand même important. C'est d'abord l'Afrique australe dont on ne parle plus. C'est quand même l'Afrique du Sud et Zuma n'est plus président. C'est l'Angola, c'est le Mozambique où on a découvert des ressources gazières qui sont peut-être, nord Mozambique et sud Tanzanie qui sont équivalentes du Qatar. C'est tout ce qui se passe au point de vue énergétique en Ouganda, au Kenya et sans doute en Somalie bientôt. Donc on est dans une vision complètement plate d'une réalité africaine qui est absolument plurielle et où les facteurs d'inquiétude sur la sécurité sont aussi contrebalancés par d'autres choses. Moi, je prends l'exemple du Kenya. Je termine là-dessus sur le Kenya. Le Kenya fait face, d'une certaine façon, à, un développement des activités terroristes. D'un autre côté, il faut bien se rendre compte, si vous regardez sur la distance 2011-2018, Le Kenya survit à ça. Alors, je veux pas tenter une comparaison qui serait une mauvaise comparaison, mais quand on regarde ce qui s'est passé avec à la fin des années 70, après la révolution islamique en Iran. Il y a eu une grande inquiétude internationale sur, mon Dieu, tous nos régimes amis dans le monde arabe vont être balayés par une révolution islamique. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y aurait pas une... C'était pas la théorie des dominos qui a été appliquée, c'est la théorie des contre-dominos. Et d'une certaine façon, je crois aussi qu'il faut se demander dans quelle mesure, à partir de crises qui ont éclaté et qui ont escaladé, on n'a pas aujourd'hui une réaction des États en Afrique, bien au-delà des appuis internationaux, qui les poussent à réagir contre ça et peut-être à survivre avec et malgré le terrorisme.
Alors, dans votre ouvrage, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, l'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, vous faites un certain nombre de constats. Pour le principal, et pour terminer cette émission qui finalement se déroule à toute vitesse, vous évoquez des réponses inadaptées aux défis du terrorisme djihadiste. Faire pour lutter efficacement ?
Ah, si j'avais la solution, je serais secrétaire général des Nations Unies. Non, ce que je vois, c'est qu'il y a des réponses inadaptées. On sait très bien que le militaire peut pas tout résoudre, qu'on essaye d'employer un marteau pour tuer une mouche dans le désert du Sahara, ou la BSS, la bande sahélo-saharienne. Et ce qui est extrêmement frappant, et Roland Marshall vient d'en dire aussi un mot, c'est-à-dire que à l'Élysée, et que le gouvernement soit de gauche ou de droite, peu importe, on a un entendement du Sahel qui est finalement aujourd'hui, avec le G5 Sahel, cette force qui est en train de se mettre en place, qui est censée prendre le relais de la force Barkhane française, un entendement qui est limité à 5 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, avec qui la France a signé les accords de défense. Et cet entendement-là est en pleine contradiction avec le narratif qui présente une menace globale avec une déferlante de djihadistes venus des pays du Golfe ou bien de l'Irak et de la Syrie, avec cette notion d'arc de crise qui traverserait, elle, tout le vrai Sahel, qui parle de la Corne de l'Afrique. Donc on voit bien qu'il y a une vraie contradiction, parce que soit on a un vrai arc de crise, dans ce cas-là vous allez déployer l'armée française au Soudan, au Somalie, en Érythrée, etc. Soit vous avez effectivement des conflits qui partent d'abord de dynamiques locales. Et c'est la grande thèse de mon livre, c'est finalement de dire que ces conflits qualifiés de djihadistes répondent d'abord essentiellement à des dynamiques locales, quoi qu'il en soit de leur référence à un modèle révolutionnaire global. Et ça me semble extrêmement important de le souligner.
Et justement, pour poursuivre, et vous évoquez l'idée que l'option militaire ne peut répondre au problème, le fond du problème, c'est, dites-vous, la nature de l'État en Afrique.
Oui, je crois qu'il y a vraiment aussi un focus qui est fait sur le religieux, ce qu'on appelle la radicalisation de l'islam, qui occulte complètement la dimension politique de ces conflits, qui sont liés à une mauvaise gestion des crises, une mauvaise gouvernance, la corruption des élites, la façon dont, du coup, la charia peut être perçue comme une revendication en faveur de davantage de justice sociale, justement dans des États où le contrat social depuis les indépendances est encore, c'est le moins qu'on puisse dire, inachevé. Et au lieu de réfléchir dans ces termes sur les responsabilités des États africains dans le renouvellement de cette contestation djihadiste, on se focalise sur le rôle du religieux et on oublie le politique. Or, la solution, elle est bien du côté du politique, bien plus que de la réponse militaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas du tout qu'il y ait d'emploi de la force, hein, mais il faut effectivement penser le social dans cette histoire.
Roland Marshall, je sais que vous souhaitez ajouter quelque chose, mais alors en un quart de dixième de seconde.
Non, si vous voulez, moi ce qui me frappe, c'est comment ces crises, disons, de djihadistes, en fait, elles soulèvent d'une part un sédiment de conflits et elles les réactualisent. Et en même temps, en faisant ça, elles montrent l'incapacité des États à y répondre. Et de l'autre, elles proposent, elles, un certain type de citoyenneté qui fait terriblement défaut aujourd'hui dans le contexte actuel. Parce qu'il y a une confiscation par des élites ou par des groupes particuliers dans ces sociétés. Et donc, ce n'est pas une solution, ce n'est pas quelque chose d'opérationnel. Mais très certainement, il est un peu fondamental de se poser les problèmes de ce point de vue-là. C'est peut-être pas la seule. Je crois qu'il y a aussi une dynamique de djihadiste global. Mais si on ne fait pas ça, on n'a rien fait. Or, le G5 Sahel, tout ce que les Français ont fait avec Barkhane et Serval et d'autres en Somalie avec la MISOM n'a jamais touché ce type de problème.
Merci, c'est là-dessus que nous allons terminer cette édition de Géopolitique réalisée en partenariat avec Questions Internationales qui consacre son dernier numéro à la Nouvelle-Afrique. Merci à Roland Pourtier, géographe, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politiste et directeur de recherche à l'Institut l'Institut de recherche pour le développement, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, aux éditions La Découverte, et Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris. Géopolitique, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Peut-être signaler la prochaine parution d'un numéro de Politique africaine sur radicalisation.
Merci Roland Marchal.